Amélie Motte. Je rappelle au passage que vous êtes la directrice générale adjointe de la Fabrique Spinoza, c'est un think tank, et vous l'appelez le think tank du bonheur. Alors pour vous, il y a un distinguo entre bonheur et bien-être. Quel est-il ?
En fait, c'est un peu ce que j'ai expliqué. Pour nous, le bonheur, c'est quelque chose de plus global que la notion de bien-être. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand même aujourd'hui, il n'y a aucun consensus finalement français et même pas international sur qu'est-ce qu'on met précisément derrière ces notions-là, et probablement qu'on aurait à gagner à se mettre clairement en face sur qu'est-ce qu'on met derrière quel mot. Et nous, notre mission au sein de la Fabrique Spinoza, c'est de remettre le bonheur au cœur de la société, parce que finalement on aspire tous à être heureux, et ce qu'on constate, c'est que c'est pas forcément un sujet toujours bien pris en considération dans les différentes sphères de la société. On voudrait tous que nos enfants soient plus heureux à l'école. J'ai l'impression qu'il se passe un truc, non ? On voudrait tous que nos enfants soient plus heureux à l'école. Et pourtant, est-ce que notre ministre de l'Éducation, nos ministres prennent en compte la question de l'épanouissement des élèves quand ils font une réforme, par exemple, du collège ou du bac ? Voilà quelle est la mission de la Fabrique Spinoza.
Et comme vous êtes coordonnatrice d'une université du bonheur au travail, est-ce que ça s'enseigne, ce bonheur ?
Ben oui, le bonheur s'enseigne parce qu'en fait, il y a énormément d'études qui sont faites aujourd'hui autour de la question du bonheur. Il y a des chercheurs comme Ilona qui travaillent sur la psychologie positive, il y a des anthropologues, des sociologues, des historiens, etc. Et toutes ces recherches, elles nous apprennent des choses qu'il est important de partager avec l'ensemble des acteurs et aussi de voir comment ces recherches peuvent être applicables dans le monde de l'entreprise. Je peux vous donner un exemple concret qui est, par exemple, le nombre de Dunbar. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup ici qui connaissent le nombre de Dunbar. Le nombre de Dunbar, c'est un nom qui a été trouvé par un anthropologue, qui s'appelle d'ailleurs M. Dunbar, qui a mis en évidence qu'on ne pouvait avoir des interactions sociales de qualité qu'avec 150 personnes. Donc, ça veut dire que pour travailler de façon efficace au travail et de façon performante, c'est vertueux de créer des unités de travail réduites à 150 personnes parce que c'est comme ça qu'on va bien travailler. Donc, c'est intéressant justement d'aller voir comment des recherches d'anthropologues peuvent être appliquées dans le monde de l'entreprise. Il y a aussi une recherche intéressante sur le nudge. Pareil, le concept de nudge, tout le monde ne connaît pas ce concept. Pourtant, il a été développé par un monsieur qui a quand même eu le prix Nobel d'économie pour ses travaux en 2017. Et le concept de nudge, c'est se dire qu'on obtient un changement de comportement durable de façon plus efficace, non pas en interdisant un comportement, mais plutôt en mettant en évidence un autre comportement. Alors, je vous donne un exemple très simple et très connu de nudge, c'est la fameuse mouche dans les pissotières de ces messieurs, qui va les inciter à faire au bon endroit. Alors, ça paraît anecdotique, oui. Mais il n'empêche que, par exemple, dans les entreprises, on a vu des réductions de frais d'entretien considérables grâce à ça. Si on parle maintenant d'une application concrète dans le monde du travail, on peut, des entreprises inspirées par cette théorie du nudge, ont mis en place ce qu'on appelle des flow lights. Des flow lights, c'est un petit feu rouge que vous installez à votre poste de travail et vous indiquez si vous êtes occupé ou pas, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez être interrompu. Il faut savoir que les collaborateurs qui utilisent ces flow lights voient leur nombre d'interruptions diminuer de 46%. Et c'est clé, pourquoi ? Parce qu'il y a une autre étude de 2017 qui a montré que quand on est concentré dans son travail, qu'on est interrompu, et c'est fréquent dans les open space aujourd'hui, on met, je crois, 23 minutes pour retrouver son niveau de concentration initial. Donc voilà, c'est important de voir ce que nous disent les études, comment est-ce qu'on peut les rendre opérationnels dans l'entreprise. Et ça, c'est un sujet, mais après, il y a tous les sujets sur la psychologie positive qu'enseigne Ilona, comment je peux mettre en œuvre mes forces au travail, comment je peux accéder à des états de flow qui sont des expériences optimales au travail, comment est-ce que je peux renouveler mes pratiques managériales pour favoriser l'épanouissement au travail, etc. etc. Donc oui, ça s'enseigne.
Vous êtes une authentique CHO. D'ailleurs, est-ce qu'on a un équivalent français Est-ce qu'on a responsable du bien-être?
Il y a plusieurs traductions. La plus simple, c'est responsable du bonheur au travail. Maintenant, il y a pas mal d'entreprises qui ont des mots qui évitent le mot bonheur, parce qu'on a du mal avec ce mot bonheur, qui vont dire responsable de l'expérience collaborateur ou responsable de l'engagement des collaborateurs. Donc moi, j'avoue, je sais pas trop si le mot de Chief Happiness Officer va perdurer, parce que effectivement, comme on disait, ça a une connotation pas forcément valorisée par les entreprises elles-mêmes et aussi par les médias. Je veux dire, l'image qu'on voit dans les médias, c'est souvent réduit à un gentil organisateur d'apéritifs, alors que ça peut être beaucoup plus de ça.
Oui, de baby-foot dans les startups, etc.
Oui, mais et encore, je trouve ça dommage de jeter le bébé avec l'eau du bain. Toutes ces initiatives qui vont favoriser le lien social, elles ont une utilité. On sait que la qualité du lien social, c'est le facteur numéro un en termes de bonheur. Donc, d'avoir quelqu'un qui favorise du lien, qui met en place des moments de convivialité, ça peut être important. Maintenant, ça peut être beaucoup, beaucoup plus vaste que ça. Et l'impact de ce métier va dépendre du mandat qui est confié au Chief Happiness Officer. AXA, par exemple, ils ont mis en place un Chief Happiness Officer. Sa mission, c'est de travailler à la transformation culturelle d'AXA en faveur de la culture de la confiance, culture de l'autonomisation, culture de la responsabilisation. Donc là, on voit bien que ce n'est pas du tout le même job que celui qu'on a proposé au fils d'Ilona. En fait, à la Fabrique Spinoza, on travaille sur une grosse étude qui va sortir le 11 décembre. Je fais de la pub pour mes copains de l'Observatoire Spinoza. Mais ça a été, au début, on pensait une petite étude, mais c'est devenu une énorme étude sur justement les nouveaux espaces de travail et leur impact sur l'expérience collaborateur. Ce qu'on observe, c'est qu'on est passé un peu d'un extrême à l'autre. On est passé du bureau fermé, hyper cloisonné, où plus j'étais élevé dans la hiérarchie, plus j'avais une moquette épaisse et un grand nombre de fenêtres, au tout ouvert, avec tous les défauts qu'il a, et vous en avez partagé un certain nombre. Et on se rend compte maintenant, et c'est une bonne nouvelle, que les espaces de travail deviennent construits en pensant à l'expérience que les collaborateurs vont y vivre. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ces espaces de travail, comme vous le disiez, il faut qu'ils répondent à différents usages. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir des temps où je puisse me concentrer. J'ai besoin, par contre, d'avoir des temps où je suis en capacité d'échanger avec d'autres. Il faut que j'ai des espaces où je puisse être créatif, des espaces où je puisse me ressourcer. Les sociologues parlent d'espaces sociopathes et sociofuges. Donc, c'est important d'équilibrer ces espaces de rencontre et ces espaces de repli. Et il y a aussi des nouvelles choses qu'on voit apparaître, comme l'impact de la nature. On parle maintenant de design biophile. Et alors, il ne s'agit pas simplement de mettre des plantes pour faire joli, mais c'est de voir comment la nature peut inspirer la conception des espaces de travail. Le fait d'avoir des plantes vertes, on sait que ça a un impact. D'ailleurs, quand on demande à quelqu'un, enfin, il y a des enquêtes qui ont été faites, où on demande aux gens de réfléchir à des moments où ils ont été stressés, et ensuite de réfléchir à des moments où est-ce que vous auriez envie d'aller dans ces moments de stress intense pour vous ressourcer, vous pouvez aller n'importe où dans le monde. Dans 98% des cas, les gens font référence à des espaces naturels. Donc on sait que la nature a un bénéfice important sur le stress, mais ça va aussi au-delà de la présence physique de plantes. Ça peut être, par exemple, la vue qu'on a. Comment est la vue à mon travail? Est-ce que j'ai une vue suffisamment dégagée, ce qui fait que je me sens en sécurité? Quelle est la température à laquelle je me sens bien? Aujourd'hui, on sait que c'est 22 degrés. C'est la température idéale pour bien travailler. Juste, si toutes les entreprises pouvaient faire attention de bien régler la clim à 22 pour que les gens soient au top, ça serait important.
C'est plus donc bas ça, ou plus haut, généralement?
Quoi?
On sait plus haut, plus bas.
Ça dépend, mais je vais vous donner un exemple assez amusant qui m'a été rapporté par un confrère. Une entreprise qui a déménagé, et donc il y a eu une enquête de climat social pour voir comment sentaient les collaborateurs dans ce nouvel espace. Et il est apparu que le plus gros irritant des collaborateurs dans le nouvel espace, c'était la température, tout simplement. Et le jour où le DRH a appris ça, il dit « Ah bon, bah ok, bah on va juste mieux régler la clim. » Et le problème était résolu. Et ça paraissait comme un irritant énorme pour les collaborateurs. Donc voilà, toutes ces... Et comme vous le disiez aussi, il faut que les espaces, aujourd'hui, s'adaptent à la personnalité des collaborateurs. en fonction de ma personnalité, je ne vais pas travailler dans le même espace de travail. Et c'est ça qu'il faut que les entreprises prennent en compte, c'est toute cette diversité, et encore une fois, d'être éclairée par la science pour la prendre en compte dans l'aménagement des espaces.
Amélie, ça vous inspire quoi, toutes ces démarches ?
Moi, pour rebondir sur tout ce qui a été dit sur la question de la mesure, nous, évidemment, à la Fabrice Spinoza, on y est archi favorable. Ça faisait même partie de nos propositions politiques lors des présidentielles. C'est important de mesurer. Ensuite, comme vous l'avez dit, c'est courageux de regarder les résultats en face. Malheureusement, aujourd'hui, quasiment une entreprise sur deux qui mène un projet de mesure, si les résultats ne sont pas bons, ils les enterrent. Et il faut faire comme si ça n'avait pas, si on n'avait jamais vu ces chiffres-là. Et ça, c'est terrible et c'est même contre-productif parce que rien que la démarche d'initier une mesure, on est déjà en train de démarrer une transformation. Et donc, enterrer les résultats après, c'est catastrophique. La deuxième chose que j'ai envie de dire, vous l'avez dit aussi, c'est une fois qu'on a regardé ce qui se passe, quel est le climat, ce que pensent les collaborateurs, il s'agit de co-construire parce que les collaborateurs, ils savent très très bien ce qui va leur faire du bien et c'est important de co-construire avec eux les démarches, c'est celles qui vont le mieux marcher. Et le troisième point qui est qu'il faut ancrer les pratiques parce qu'une fois qu'on a mis en place un outil de mesure, une fois qu'on a eu plein d'idées, il s'agit de les déployer et ça prend du temps. Et ça aussi, ça demande du courage, parce que changer une culture d'entreprise, ça peut prendre 2, 3, 4, 5 ans. Et donc, moi, je suis très admirative des gens qui se lancent dans la mesure, qui regardent les résultats en face et qui essayent de faire changer les choses.